Technologie, science,
algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 26e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler des modèles et plus particulièrement de leur validité. Pour en discuter, nous recevons Guillaume Bellon, professeur à l'INSA de Lyon et directeur de l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes. Guillaume Bellon, bonjour.
Bonjour.
Vous vous intéressez principalement à la modélisation des systèmes biologiques complexes. Donc d'abord, qu'entend-on par système biologique complexe ?
Déjà, un système biologique, c'est toujours complexe, en fait. Donc un système biologique complexe, c'est presque un pléonasme. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'un système biologique, c'est un système qui est composé de beaucoup d'éléments qui interagissent les uns avec les autres. Alors si on prend une cellule, c'est des éléments moléculaires. Si on prend un organisme, ça peut être des éléments cellulaires. Si on prend un écosystème, c'est des individus ou des animaux. Et quand tous ces éléments interagissent entre eux, ils créent une régularité. Les molécules créent la cellule, les cellules composent l'individu et les individus composent l'écosystème. Et la complexité, c'est le fait qu'on puisse les observer au niveau des éléments et au niveau de la globalité et rechercher quels sont les liens qu'il y a de l'un à l'autre.
À quoi servent les modèles que vous établissez ?
D'une part, on n'a pas toujours tous les moyens d'observation nécessaires pour observer les deux niveaux en parallèle, je redis, à l'échelle des molécules et à l'échelle de la cellule. D'autre part, on n'a pas forcément les outils cognitifs pour penser ces deux niveaux en parallèle. Et à ce moment-là, le modèle, c'est un petit peu la béquille intellectuelle qui va nous aider à penser l'objet. À la limite, le premier modèle, c'est le schéma qu'on va faire sur une feuille de papier. C'est déjà un modèle, c'est déjà quelque chose qu'on fait pour s'aider à penser l'objet. Maintenant, ce modèle sur la feuille de papier, il est difficile à mettre en action. C'est un modèle qui va juste parler à notre intellect et qu'on ne peut pas, par exemple, simuler, qu'on ne peut pas calculer, on ne peut pas observer quels sont tous ces régimes de fonctionnement. Et donc, l'usage d'un modèle plus informatique ou mathématique, c'est quasiment la même chose que ce modèle sur la feuille de papier, sauf qu'en plus, on va pouvoir le mettre en action et observer ce qu'il produit en passant, par exemple, je redis, du local au global.
Vous utilisez une approche de modélisation particulière qu'on appelle la modélisation individu-centrée pour étudier ces systèmes biologiques. Quel est l'intérêt de cette méthode pour la modélisation des systèmes biologiques complexes ?
C'est précisément l'objectif de départ, qui est de dire j'ai des éléments, j'ai une globalité, je veux comprendre les liens entre les deux. Il y a plusieurs façons pour faire ça, et la modélisation individu-centrée, c'est une modélisation dans laquelle on va définir les éléments, on va définir a priori le comportement de chacun des éléments qu'on va mettre dans le système. Alors là, on le comprend très bien si je dis que le comportement, c'est des animaux, par exemple. Le comportement du loup, c'est de chasser les lapins, et le comportement du lapin, c'est de brouter l'herbe, et le comportement de l'herbe, c'est de pousser. Et en mettant un très grand nombre d'éléments de ce type-là en interaction les uns avec les autres, eh ben je peux observer les régularités émergentes, c'est le terme qu'on utilise souvent, à l'échelle globale, qui me renseignent sur le passage du local au global. Donc ça me permet de savoir, par exemple, est-ce que la population de lapins va s'éteindre, est-ce que la population de loups va s'éteindre, etc., etc.
Les scientifiques utilisent de plus en plus de modèles dans leurs travaux, justement. On entend beaucoup parler en climatologie, notamment. Mais est-ce qu'un modèle est toujours exact ?
Non, un modèle est toujours faux par nature. Quand je trace sur ma feuille de papier le schéma de fonctionnement de la voiture, ce schéma n'est pas ma voiture. Ce schéma est forcément une version réduite de ma voiture. Pour faire un modèle, c'est exactement la démarche. Un modèle, c'est toujours une réduction de l'objet. Donc en tant que tel, en tant que réduction, il est toujours faux. Mais ça ne veut pas dire qu'il dit des choses fausses. Ça implique juste qu'il faut l'interpréter. Ça veut dire que pour un usage scientifique des modèles dans lequel je, en tant que scientifique, construis mon modèle par rapport à un objet que je connais, à une question que je connais, il est faux, mais ce n'est pas grave, il me parle. Par rapport à un usage pédagogique des modèles, auquel cas je vous montre le modèle, je vous dis voilà, il dit ça, ou il donne telle réponse, là il faut faire un peu plus attention, parce qu'il faut faire attention à ce que la personne à qui je montre mon modèle ne l'interprète pas au-delà de ce que j'ai mis dans le modèle.
D'accord. Alors, y a-t-il une bonne manière, entre guillemets, d'interpréter un modèle ?
Il y a une bonne manière de faire des modèles. Et faire des modèles, c'est partir de l'objet de départ et de la question sur l'objet de départ et aller jusqu'à l'interprétation du modèle. Donc oui, il y a une bonne manière pour faire ça. Et à la limite, ce n'est pas tellement une manière de faire des modèles, c'est presque une manière de penser l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient d'une chose, c'est qu'un modèle, c'est toujours un objet pluridisciplinaire. Vous parliez de modèles, par exemple, de climatologie. c'est forcément un objet pluridisciplinaire puisque c'est un objet qui va mettre en œuvre des climatologues, probablement des planétologues, probablement des chimistes et évidemment des mathématiciens, des informaticiens, des gens spécialistes du calcul numérique, etc. Donc autour du modèle, on va retrouver tout un ensemble de compétences qui sont issues de champs scientifiques différents. Et le bon usage des modèles, c'est la bonne capacité de toutes ces compétences de parler entre elles, d'échanger des informations et de les réunir au sein du modèle.
Est-ce que c'est plus difficile pour un modélisateur de trouver sa place ?
Non, je ne crois pas que ce soit difficile. Enfin, pas plus que la science en général. Moi, j'adore ça. Si je fais ça, c'est parce que ça m'intéresse. Je crois que les modèles, c'est surtout un outil fantastique pour aller aborder des questions avec de nouvelles méthodes. C'est un outil fantastique pour questionner les gens, pour les amener à regarder, à porter un nouveau regard sur leur objet. Et ça, c'est vrai aussi bien pour les biologistes, quand moi, informaticien, je fais un modèle de biologie, que pour moi, quand le biologiste vient me poser des questions en disant « Est-ce qu'il y a ça dans ton modèle ? Est-ce qu'il n'y a pas ça ? Est-ce que tu peux montrer ça ?» etc. Donc, c'est un formidable outil de découverte de connaissances scientifiques et un formidable outil aussi pour questionner la science sur ses propres pratiques, sur ce qu'elle cherche et sur, finalement, les non-dits qu'il peut y avoir dans toutes les sciences.
Et c'est des questions, par exemple, auxquelles on n'aurait pas pensé si on n'avait pas eu ces modèles ?
C'est souvent ça. C'est souvent des questions auxquelles les gens ne s'intéressaient pas parce que la question, à la limite, ne se posait pas. Parce que la façon de regarder l'objet contraint ou limite les questions qu'on peut poser à cet objet-là. Alors que quand on fait le modèle, on est obligé de regarder différemment. Il y a énormément de choses donc, en biologie qui sont admises, qui ne sont pas discutées. Et quand on fait le modèle, eh ben on est obligé de mettre dans le modèle toute la biologie. Donc en fait, ces questions qui ne sont pas discutées, ben à un moment donné, moi, en tant que constructeur du modèle, je suis obligé d'aller voir le biologiste et de dire, et dans ce cas-là, dans telle situation, qu'est-ce qui va se passer ? Et alors en général, la question ne se pose pas parce que la réponse est, mais cette situation ne se présente pas en biologie. Et à ce moment-là, pourquoi ? Parce que moi, dans mon modèle, il faut bien que je mette cette situation-là. Dans mon modèle, elle va arriver, probablement en tout cas. Donc il faut que je la gère. Il faut que je la gère, peut-être en faisant en sorte qu'elle n'arrive pas, mais pourquoi, comment ? Et à ce moment-là, on pose une nouvelle question au biologiste en lui disant, bah voilà, ça c'est une question que vous ne vous posiez pas, mais pourquoi ça n'arrive jamais ?
Alors comment on arrive à se mettre d'accord sur un modèle ?
La question est extrêmement pertinente, mais elle n'a peut-être pas de bonne réponse. Je ne crois pas qu'on se mette d'accord sur un modèle. En fait, si on dit qu'on se met d'accord sur un modèle, ça suppose qu'on considère que le modèle est un intermédiaire entre le modélisateur et le biologiste. Il est assez communément admis que c'est le cas. On parle de modèle as mediators, par exemple. Eh bien, moi, je ne pense pas que ce soit vrai, en fait. Je pense que le modélisateur est le médiateur entre le biologiste et le modèle. Donc, en fait, l'accord sur le modèle, il est quasiment impossible à obtenir, tout simplement parce que les deux partenaires de la modélisation n'ont pas le même regard sur le modèle, n'en attendent pas forcément les mêmes choses, n'ont pas forcément les mêmes moyens pour le regarder, etc. Donc je pense que l'accord sur le modèle n'est pas forcément à rechercher, il n'est pas forcément possible. Ce qui est à rechercher, c'est l'accord ou le consensus sur ce que dit le modèle. C'est-à-dire sur l'interprétation qu'on fait des résultats du modèle. Et finalement, ce n'est pas tellement le modèle qui parle au biologiste, c'est le modélisateur qui présente au biologiste des résultats qu'il a obtenus sur le modèle.
Pour arriver à un consensus.
Y
a-t-il une bonne méthodologie de la modélisation ?
On peut définir une pratique de la modélisation. Donc, alors, pas de toutes les modélisations, je pense. Je pense qu'il y a différentes techniques de modélisation qui amènent des pratiques différentes, ou des bonnes pratiques différentes. En tout cas, pour celle que je pratique moi, c'est-à-dire la modélisation individu-centrée, il y a une démarche qui, je pense, permet de faire des bons modèles. Cette démarche, de toute façon, elle commence par une bonne connaissance de l'objet et par une bonne question sur cet objet-là. Et c'est quoi une bonne question ? C'est une question qui intéresse les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas une question qui m'intéresse moi dans mon coin, c'est une question qui intéresse des gens qui regardent cet objet-là. C'est-à-dire que c'est une question qui intéresse les biologistes, pas une question qui intéresse les informaticiens. Donc de toute façon, il y a déjà un premier dialogue pour définir la question. Ensuite, il y a toute une phase dans laquelle on va définir les contours du modèle. C'est-à-dire essayer de comprendre, pour répondre à ces questions-là, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon modèle, qu'est-ce qu'il faut que je n'y mette pas, en fonction de ce qu'attend le biologiste, en fonction de ce que j'ai compris de sa question, etc. etc. Cette phase-là, c'est quasiment une phase de jeu. C'est-à-dire que c'est une phase dans laquelle on va manipuler le modèle un petit peu, on va rajouter des choses, enlever des choses, regarder ce que ça donne, etc. Transmettre un petit peu les résultats intermédiaires au biologiste. Et dans cette phase de construction par le jeu, c'est là que se fait le sens, en fait. C'est-à-dire que c'est là que moi, en tant que modélisateur, je vais comprendre ce qui se passe. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Si ça s'arrête là, ça veut dire qu'en fait, j'ai fait le sens, j'ai rien qui me permet d'argumenter. Donc, une fois que j'ai fait sens avec mon modèle, dans ce jeu, je dois utiliser mon modèle pour développer des arguments. Développer des arguments, ça veut dire que je vais étudier mon modèle de façon scientifique, c'est-à-dire je vais changer des paramètres, observer les résultats, changer un autre paramètre, observer les résultats, faire des répétitions, faire des statistiques sur les répétitions. Donc, c'est vraiment une méthode expérimentale à ce stade. Et une fois que j'ai obtenu une réponse valide dans le contexte de mon modèle, alors je peux chercher à exporter ce contexte et à regarder quelles sont les conditions pour que cette réponse passe dans le contexte de la biologie réelle. Et ça, ça demande à nouveau une très très grande pratique de l'interdisciplinarité, une très bonne connaissance du domaine biologique et des méthodes du domaine biologique, parce qu'on va m'attendre au tournant, entre guillemets, sur l'usage des méthodes. Et seulement une fois que j'ai fait toute cette démarche-là, alors je peux retourner à la biologie et dire, voilà, je vous dis que, sachant que je n'ai aucune preuve, puisque j'ai fait un modèle, mais je vous dis que, et j'ai développé suffisamment de connaissances en biologie à l'aide de mon modèle pour pouvoir amener par un discours de biologie le résultat de mon modèle dans le champ de la biologie. Ça veut dire qu'à la fin, en fait, mon modèle, je peux l'enlever. Là où mon modèle devient vraiment utile, c'est au moment où j'en ai plus besoin. C'est-à-dire au moment où il m'a permis de développer un discours de biologie sur l'objet suffisamment cohérent dans le champ de la biologie pour que ce discours se passe de mon modèle.
Guillaume Bellon, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. À la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.